Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Bienvenue dans le forum du Studio Kalangou qui porte aujourd'hui sur l'esclavage moderne. Quelles sont les formes qui existent au Niger et comment l'expliquer? Une campagne mondiale visant à mettre fin à l'esclavage moderne dénommée 50 pour la liberté, initiée par la Conférence internationale du travail CIT, relève que plus de 25 millions de femmes, d'hommes et d'enfants vivent dans des situations d'esclavage moderne, soit 3 personnes sur 1000 dans le monde. Qu'est-ce que l'esclavage moderne? Quelles sont les différentes formes au Niger? Qu'est-ce qui explique l'esclavage moderne au Niger? Ce sont les principales questions auxquelles nous tenterons de trouver des réponses. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Ali Bouzou. Il est le secrétaire général de l'association de lutte contre l'esclavage au Niger, l'association Timidria. Bonsoir M. Ali.
Bonsoir.
Le docteur Moussa Zangaou, il est sociologue. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et monsieur Aliou Daouda, il est magistrat. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À la présentation, Nefissa Adam Sirfo. Chers invités, merci de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio. Pratiqué donc depuis l'Antiquité, l'esclavage a connu son apogée avec la mise en place de la traite des Noirs et du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique au XVIIe et XVIIIe siècle, avant d'être progressivement aboli, comme par exemple par la France. Mais les formes d'exploitation proches de l'esclavage, appelées esclavage moderne, n'ont pas disparu. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter cette interview de la juriste pénaliste. Elle est experte en traite des personnes, Souheba Ibrahim. Elle a accordé une interview à notre reporter Olivier Asokbavi. Elle nous donne des précisions sur ce phénomène.
En réalité, le vocable traite des personnes et esclavage des termes modernes, ou bien certains vont dire traite des êtres humains, c'est la même chose. Ce n'est que deux vocables qui sont utilisés d'un pays à un autre. La traite de personnes, c'est une activité criminelle qui consiste à utiliser des gens comme des marchandises. Et du coup, il y a une certaine tendance à utiliser des gens qui sont vulnérables. Les victimes les plus vulnérables, ce sont par exemple les enfants. Là, on assiste à la mendicité des enfants que les grandes personnes utilisent pour avoir une entrée d'argent. Comme personnes vulnérables, on peut aussi voir les femmes. Il y a aussi les personnes qui vivent avec un handicap ou bien les personnes qui sont en situation de réfugiés, exilés et tout ça. Parce que ce sont des personnes qui sont dans une situation qui ne leur permettent pas d'avoir une protection assez complète comme les autres victimes. L'infraction de traite des personnes, beaucoup de gens la commettent sans le savoir.
Un exemple précis.
Oui, vous allez voir des gens qui utilisent des domestiques. Déjà, quand vous utilisez un domestique, c'est un contrat de travail. Normalement, vous ne devrez pas payer les domestiques en dessous du SMIC. En plus, vous devrez donner des jours de congé, des jours fériés. Tout ça, c'est des choses que les gens ne respectent pas dans ce pays-là. Et du coup, on peut assimiler le travail domestique à de la traite des personnes. C'est des gens qui n'ont absolument rien demandé, mais qui sont en train de subir des subissements. Ça peut être psychologique ou physique sur leur propre corps. Selon les statistiques nationales et même des Nations Unies, la traite des personnes est le troisième crime commis mondialement. Depuis la nuit des temps, les sociétés ont utilisé des personnes. L'exemple le plus frappant, c'est l'esclavage. Et maintenant, nous sommes dans une société qui a évolué. Il y a des droits de l'homme qui sont érigés. Il y a des textes qui ont été adoptés. Du coup, les gens ne peuvent pas faire ça aussi ouvertement. C'est devenu clandestin.
Je reviens dans ce studio avec mes invités. Je vous donne la parole en premier, M. Ali Bouzou. Vous êtes le secrétaire général de l'association de lutte contre l'esclavage, l'association Timidria. Vous venez d'écouter cette intervention de la juriste pénaliste Souheba sur ce phénomène. Quelle réaction cela suscite en vous? Et vous, comment vous définissez vraiment l'esclavage moderne?
Bon, merci de nous avoir donné l'occasion quand même de nous exprimer sur... cette question qui hier était tabou et qui aujourd'hui elle est sur les plateaux de discussion. Donc j'ai bel et bien écouté la juriste Souheba. Bon, effectivement, elle a dit des choses qui sont vraies parce que nous, à notre niveau, l'esclavage, nous avons identifié trois formes.
Lesquelles ?
Et la forme active, c'est-à-dire c'est là où en fait l'esclave et tous ses biens sont la propriété du maître. Et la forme passive, ça c'est l'esclavage par ascendance, c'est-à-dire tu peux ne même pas savoir que tu es esclave. Peut-être il faut aller dans certaines cérémonies, par exemple mariage ou élection, pour te rappeler ton origine servile. Et la troisième forme, c'est la traite des personnes. Donc, dans la traite des personnes, et il a dit que les cibles, c'est des jeunes et des femmes. Nous, on a identifié une zone dans la région de Tawa, c'est-à-dire qu'on a dénommé Triangle de la Honte, et où se passe une pratique qui s'appelle Wahaya, qui s'exerce à des jeunes filles, généralement de 12 ans, qui sont vendues par leur maître, donc sous forme de mariage déguisé. Donc, vous voyez, ça, c'est un phénomène qui est là. Et jusqu'à présent, elles sont présentes.
Et ce sont des formes de pratiques qui se regroupent dans l'esclavage moderne, si on peut le dire.
Oui,
voilà.
C'est l'esclavage moderne parce que, en fait, c'est une transaction. Il y a une vente qui est là avec des transactions, avec des intermédiaires. Et parfois, on cache les choses pour dire que allez-y, c'est un mariage. Les parents ne sont même pas parfois informés. Il n'y a pas de consentement de la fille, parce que d'abord, elle est jeune fille, elle ne peut pas se marier, 12 ans, non. Et il n'y a même pas le consentement des parents. Donc, mais quand même, on dit que comme c'est un tel qui est ton maître, il a les droits sur tes enfants, ça veut dire voilà, c'est l'esclavage en tant que tel, mais qui est déguisé par la tradition et autres.
Merci à vous.
Donc, voilà.
Nous allons revenir vers vous, Monsieur Ali. Alors, docteur Moussa Zangou, vous êtes sociologue. L'esclavage moderne, c'est un phénomène social. Aviez-vous d'autres exemples précis, à part les exemples donnés par Ali?
Merci. Vous parlez de l'esclavage. J'aurais bien voulu, avant de rentrer dans certains détails qui sont beaucoup plus spécifiques, comme dans votre introduction, vous avez parlé de la traite négrière, qu'on parle plutôt des traites négrières qui ont constitué des pratiques emblématiques qui ont justifié un certain nombre de siècles des pratiques qui ont concerné précisément l'Afrique. La traite transatlantique que vous avez évoquée en direction des États-Unis,
voilà,
de l'Europe, elle était la plus visible, mais en réalité, c'est celle qui a fait le moins de dégâts aussi en Afrique. Parce que les gens oublient souvent la traite transsaharienne ou la traite arabe qui a duré environ 11 siècles. Si aujourd'hui, malheureusement, ce n'est qu'en 2017 qu'on a commencé à parler de l'esclavage en Libye, on n'a jamais parlé du tout de l'esclavage au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Est-ce à dire que dans ces pays, ce phénomène n'a pas existé ou qu'il n'y a pas de survivance du phénomène de l'esclavage? C'est là que, imaginez 11 siècles de traite arabe en direction de l'Asie. Parce que c'est surtout l'Afrique du Nord, les pays arabes, qui ont servi d'approvisionnement pour certains continents. Alors que la traite transatlantique, comme vous venez de le dire, celle-là, de l'Afrique du Nord vers l'Europe, vers l'Amérique, où aujourd'hui le phénomène a connu en réalité beaucoup plus de visibilité et qu'il y a des descendants des anciens esclaves qui ont commencé à revenir en Afrique, qui ont commencé à prendre position sur les grandes questions brûlantes de l'Afrique.
D'accord. Et présentement, quelles sont, selon vous, les pratiques esclavagistes modernes, vivaces, ici, qui sont présentes ici au Niger?
Au Niger, le SG de Tamadria a dit l'essentiel de ce qui concerne l'esclavage traditionnel.
Oui.
Évidemment, il a parlé de la forme active. que je considère comme la forme la plus rébarbative, c'est la forme classique où, qui répond réellement à la définition de la Convention de septembre des Nations Unies, de Genève, du moins, de septembre 1926, qui définissait l'esclavage comme étant l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les droits de propriété ou certains attributs, qui a été révisité en septembre 1956, en ajoutant d'autres formes d'esclavage qui beaucoup plus rejoint les sujets ici, les formes modernes de l'esclavage à travers le monde. Et en ce qui concerne le Niger, parce que votre précision cherche à vérifier du côté du Niger,
voilà.
Et j'ai parlé de la forme active, la forme passive, c'est exact. C'est peut-être c'est elle qui fait le plus de ravages aujourd'hui. Où il est possible de trouver des villages entiers ou des zones entières où vous avez une proportion extrêmement élevée, 80-90% de la population qui est d'ascendance servile.
Et selon vous, pourquoi cela persiste encore aujourd'hui?
Pourquoi la persistance de l'esclavage? Parce que, vous savez, l'esclave, il est formaté dans le sens des attentes du maître. C'est un construit qui se trouve dans un système qui lui-même est construit dans le sens où le système n'a pas intérêt à ce qu'il ait une certaine prise de conscience. Et parmi les aspects qu'on peut citer banalement, vous savez, pendant très longtemps, vous trouvez très, très peu ou du tout pas des jeunes d'origine servile à l'école, l'analphabétisme est extrêmement répandu dans ces milieux. Ces populations sont coupées de l'essentiel des mutations qui sont observées dans certains milieux, tels que les villes, vous voyez. L'esclavagiste, les maîtres préfèrent toujours maintenir son esclave en dehors de tout contact,
voilà.
En dehors de toute influence. Ainsi, il a la même mise
sur lui.
Mm-hmm.
Les différentes formes d'esclavage moderne sont toujours présentes ici au Niger. Monsieur Aliou Daouda, vous êtes magistrat. À votre connaissance, des juridictions nigériennes ont-elles eu à gérer des cas d'esclavage moderne?
Bon, vous savez, en fait, moi, je trouve que il faut revenir à la précision. Ramener le sujet, comme vous voulez, à l'esclavage moderne, moi, je trouve que c'est limité. Puisque selon les explications données par le secrétaire général de Timidria, et selon aussi l'appui apporté par Dr Zangaou, en sériant l'esclavage actif, et avec la précision apportée par Dr Zangaou, donc l'esclavage dans sa forme privative existe toujours au Niger. Maintenant, la manifestation se faisant avec plus ou moins d'acuité que dans l'époque antique.
Oui, dans le passé.
Et comme il a dit, la forme passive, aujourd'hui, c'est elle qui fait les ravages, puisque c'est elle qui, par laquelle on passe pour dénier l'esclave de tout droit. Même vous présentez à des élections, on vous dit non. Dans des partis politiques, on vous dénie la qualité, la capacité à être. Donc, revenons dans le contexte actuel du pays. Il y a l'esclavage moderne, mais aussi à l'esclavage dans sa forme traditionnelle. Donc, maintenant, vous êtes intéressé par l'esclavage, les formes modernes.
Oui.
C'est celle-là, avec la révision apportée en 1956 de la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de l'esclavage de 1926, où on a intégré les aspects de traite de personnes. Et la traite, même si la Convention a connu une révision en 1956, la traite existait toujours, et le docteur Zanga l'a précisé. Il y a la traite transatlantique, mais aussi il y a la traite arabe qui a duré 11 siècles. Donc la traite, même si aujourd'hui on retourne pour ça, pour dire que c'est la forme contemporaine, c'est que la traite existait même avant.
Avant, oui.
Maintenant, les manifestations qu'on voulait en donner, c'est à travers, si vous voulez, la révision opérée en 1956 de la Convention de 1926, avec l'adoption de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, avec laquelle on a ajouté deux protocoles de Palerme, le protocole sur la traite et le protocole sur le trafic illicite des migrants. Aujourd'hui, la manifestation des traites se fait à travers le fait qu'une personne, comme l'a dit Souéba,
la juriste pénaliste
Souéba, comme elle a dit, où l'individu est assimilé à une marchandise. Mais même dans la forme primitive de l'esclavage, l'esclave est une marchandise appartenant à son propriétaire qui peut la céder. Ce n'est pas la personne dans la traite qui est cédée entièrement, mais ça peut arriver à la personne qu'on peut aller jusqu'au prélèvement d'organes d'un être humain.
Oui, donc pour revenir donc sur la question juridique, est-ce qu'à votre connaissance, les juridictions nigériennes ont eu à gérer des cas d'esclavage?
Sans être exhaustif, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exacte certitude ce qui s'est passé, mais depuis l'avènement de l'ordonnance relative à la traite, à la lutte contre la traite des personnes, et même avec l'adoption de la loi sur le trafic illicite des migrants, il y a eu beaucoup d'affaires. Si vous voulez, déférer la chronique, qu'on a entendu parler ici, à droite, à gauche, particulièrement dans certaines régions du pays, et même à Niamey, les juridictions nigériennes connaissent aujourd'hui du contentieux relatif à la répression des infractions liées à la traite des personnes. Il y a une loi, il y a une ordonnance qui est là, et cette ordonnance d'application difficile au début, maintenant, timidement, elle a commencé à donner effet.
Oui, parlez-nous de cette ordonnance.
C'est l'ordonnance de 2010, 7 décembre 1986, qui est relative à la lutte contre la traite des personnes. Cette ordonnance, si vous voulez, c'est elle qui est l'instrument juridique au niveau national, qui a implémenté dans le cadre juridique national la Convention de Palerme ou son protocole additionnel relatif à la lutte contre la traite des personnes. Et dans tous les cas, l'histoire de ces instruments, et en lien avec, si vous voulez, ce que vous avez dit, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, donc c'est cette loi maintenant, cette ordonnance qui sert de base juridique pour réprimer les infractions de traite des personnes. Et la définition que l'ordonnance a donnée de la traite des personnes, c'est la même définition contenue dans le protocole additionnel. C'est vraiment le recrutement, le transport, l'accueil, l'hébergement d'une personne en utilisant des moyens. Ça peut être un recrutement forcé, partiellement forcé, ou, si vous voulez, les moyens de contrainte tout autre au fin d'exploiter la personne. L'exploitation comprend au minimum le sexe, l'exploitation sexuelle, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage et l'exploitation du travail d'autrui. C'est ça la modernité.
Voilà.
Comme il vient de le dire, on recrute quelqu'un, on le soumet à la prostitution et d'autres personnes recueillent, collectent les fruits de sa prostitution.
D'accord. Monsieur Ali Bouzou, vous êtes le secrétaire général de l'association Antimidria.
Et je vais aussi profiter pour un peu ajouter à la réponse de Zango par rapport à votre question relative à qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait que l'esclavage persiste. Voilà. En fait, l'esclavage persiste encore au Niger parce que moi, je pense que les autorités n'ont pas pris, en tout cas, de vraies décisions pour éradiquer ces phénomènes, définitivement. C'est vrai, il y a eu la loi depuis 2003 qui criminalise l'esclavage. Il y a eu aussi une circulaire du premier ministre de l'époque qui a identifié les zones où persiste l'esclavage et a ordonné vraiment de mettre fin à cette pratique. Ça, c'est depuis 2003. Mais qui, en 2005, quand il y a eu une étude qui a, en tout cas, donné un chiffre important d'esclavage dans la région de Tillabéri. Et c'est même responsable pour qui sont sortis pour dire que l'esclavage n'existe pas, malgré l'existence de la loi. Donc, vous voyez, il y a ces problèmes-là. Voilà. Deuxièmement, aussi, il y a le chef coutumier. Vous savez, et l'administration coutumière, là, elle a une emprise totale sur les autorités administratives. Et du coup, la plupart des chefs, surtout dans les régions de Tawa et autres, sont des enfants des Wahayou et ne veulent pas qu'on parle de la question de l'esclavage. Ça, c'est une des. Troisièmement, aussi, le Niger a ratifié toutes les conventions relatives à l'esclavage. Mais depuis l'existence de la loi et même l'ordonnance, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aujourd'hui on est le 2 janvier 2020, il y a eu seulement 3 cas qui ont vraiment été jugés. Bon, on va dire 4 puisqu'il y a eu un cas avant-hier à Dakoro. Mais pourtant, on a une liste. On a un avocat, un assistant juridique qui est là. On a des dossiers qui sont encore devant les tribunaux. Mais très malheureusement, il faut toujours saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Même les cas de la Wahaya, Khadija Toumani, tout le monde sait, la justice nigérienne l'a amené en prison pendant 6 mois. Et c'est la justice de la CEDEAO vraiment qui a condamné l'État du Niger à vraiment payer, à protéger cette dame.
Si on comprend donc, c'est rien n'est fait du côté de l'État nigérien pour vraiment empêcher.
En fait, les institutions sont créées, mais je pense qu'il y a deux problèmes. Soit, parce que moi j'ai écouté le président de la République une fois, il a dit qu'il a besoin des institutions fortes. Là, les institutions sont créées, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que les responsables de ces institutions-là sont plus forts que les institutions. C'est ça. Parce qu'on a géré un cas où des gens qui ont dit clairement qu'ils n'ont pas besoin d'un chef esclavagiste. Mm-hmm. Et c'est des chefs de tribus, 67 chefs de tribus. Vous savez, ce n'est pas qu'il y a eu une tribu à au minimum 10 villages. Ils se sont solidarisés, ils ont dit que... ils devaient créer leur propre groupement et on les a empêchés. On a porté l'affaire devant même les tribunaux, très malheureusement. Donc, on a donné raison à l'esclavagisme. Donc, ça veut dire quoi? Les institutions sont là. Ils sont créés pour lutter contre l'esclavage, mais les gens qui sont censés animer ces institutions-là, en tout cas, ne jouent pas leur rôle.
D'accord. À part la région de Tawa où l'on retrouve la pratique du Wahaya, c'est ça, quelles sont les différentes régions, quelles sont les autres formes qu'on peut retrouver dans les autres régions?
Je vais vous dire par région, c'est-à-dire la forme active. Là. La forme active, on l'a trouvée dans la région de Tillabéri, du nord Tillabéri, le département de Bankélaré, Abala et autres, et la région de Tawa, et la région d'Agadez, la région de Zender et vers Difa aussi. Quant à la forme passive, elle est beaucoup plus observée dans les régions de Tillabéri, Dosso aussi. Aisément, je peux vous dire, puisque tout récemment, on a effectué une étude dans le cadre du projet Lesland, une étude qui a fait un an où les résultats ont été publiés derrière même une exposition, que dans toutes les régions du Niger, l'esclavage existe.
D'accord. Et le rapport de Global Slavery Index 2018 de la Fondation australienne Walk Free sur l'esclavage indique que parmi les victimes d'esclavage moderne dans le monde, 71% sont des femmes. Est-ce le cas ici au Niger?
Oui, mais si on fait une étude réelle, on peut trouver même un chiffre plus important que ça, puisque c'est les femmes qui sont vraiment beaucoup victimes. Quand vous prenez le cas de la Ohaya, c'est ça. Quand vous prenez les filles, elle a parlé des bonnes, ici, partout. Donc, vous voyez, c'est des filles qui sont là. Et quand vous prenez le nouveau contexte là, du terrorisme, l'enlèvement, là, c'est les femmes qui sont enlevées. C'est les femmes qui sont enlevées pour être réduites en esclavage.
Donc, parmi les différentes formes, on retrouve aussi, comment dirais-je, le travail des enfants ou bien la prostitution, tout ça.
Oui, les mariages forcés, le travail des enfants, c'est comme naturel, quoi.
Voilà.
Par exemple, toi, tu es d'origine servile, maintenant ton enfant aussi, d'office, il est d'origine servile, maintenant il faut l'envoyer quelque part pour travailler pour un autre, difficilement. Ou bien il faut le faire suivre par un marabout qui va l'utiliser, ainsi de suite. Ça c'est même à l'aise, quoi. Les gens le font sans tenir compte. Pour eux, ils sont nés pour être ça, quoi.
Il y a une autre forme de cas d'esclavage moderne, travailler sous dette ou la servitude.
La servitude, voilà.
C'est ce qu'on appelle la servitude pour dette. Voilà. Bon, ça là, vous savez, moi, j'ai toujours des problèmes quand on me dit forme moderne.
C'est ça.
Moi, j'ai forme moderne parce que moi, l'antiquité, l'antique là n'a pas disparu.
D'accord.
Mais seulement maintenant, ça a pris d'autres élans. La servitude pour dette, c'est une institution qui existait depuis l'Antiquité. Mais maintenant, aujourd'hui, puisque à l'époque, ça s'est pratiqué au grand jour, mais maintenant, on est obligé de la faire couvrir, de la faire en cachette. Donc, c'est ça, là où quelqu'un travaille pour une personne pour payer une dette qui ne finira pas. Parce que la servitude pour dette, c'est toujours une dette que vous travaillez, la personne perçoit votre salaire, mais in fine, on verra que la dette ne finit pas. Votre condition de vie ne s'améliore pas. Et vous avez toujours des charges supplémentaires qui se créent. Puisque si vous travaillez, vous payez un mois, on va vous dire que voilà, on vous loge, on vous a soigné, on a offert de l'argent. Et la pratique maintenant, la modernité, que vous avez des petits-enfants étrangers que vous voyez dans les restaurations, les vulcanisateurs. Et ils sont confiés à leur chef par leur famille contre l'argent. Et ces enfants-là sont utilisés pour travailler, pour payer une dette consenti à leur part.
Merci à vous. Je reviens vers vous, docteur Moussa Zango. Vous êtes sociologue. Donc, dites-nous, quelle comparaison pouvez-vous faire entre les formes d'esclavage d'aujourd'hui et 20 ans ou 30 ans en arrière? Quelle comparaison?
Je crois que une histoire, quand vous parlez de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, c'est presque aujourd'hui. Oui. Mais avant de répondre à votre question, j'ai voulu un peu parler des chiffres. Il faut noter que selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, ce sont des données encore récentes, puisque des données de fin 2016, publiées pour la plupart en 2017, il y a plus de 40 millions de victimes du travail forcé, de l'esclavage moderne. Et dans le concept de l'esclavage moderne, il n'est pas de trop de revenir sur le concept de travail forcé, les mariages forcés. Chez nous, il est difficile de dire que les mariages forcés n'existent pas. Parce que les mariages précoces concernent pratiquement toutes les familles. Et surtout, dans les zones rurales, et vous savez, 85% voire plus de notre population vit encore dans les zones rurales.
Oui.
Alors que dans les grandes villes aussi, vous avez des enfants qui sont mariés à un âge très bas. Je l'ai découvert un peu partout. Vous avez parlé tout de suite de la servitude pour dette.
Oui.
Mais ce sont des situations qui existaient depuis l'Antiquité, comme l'a dit notre ami Aliou Dabda, mais qui n'ont jamais disparu. Et que ces formes de situation, on les observe un peu partout à travers le monde. Quand je dis un peu partout, je parle de l'ensemble des continents qui composent la planète. L'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les deux derniers continents constituent les continents les plus concernés par l'esclavage sous toutes ses formes, l'Afrique et l'Asie. Ce sont les deux continents. Et quand on parle de l'Afrique, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes intéressés par le Niger, mais c'est très intéressant aussi de s'interroger sur ce qui se passe autour de nous, au Burkina Faso, surtout au Mali, qui partagent les mêmes réalités socio-culturelles que le Niger, le Tchad, le Nigeria, mais tout ça souvent sous des formes qui varient d'une communauté à une autre. Et au Niger, comme au Mali, ce sont les communautés de traditions nomades qui sont les plus concernées par les formes actives de l'esclavage. On ne les dit pas assez parce que, le plus souvent, si le terme esclavagiste, parce que ça justifie une certaine vie, un certain fondement qu'on trouve indispensable dans les milieux, mais c'est surtout les communautés touareg, arabes et toubou, qui vivent dans les zones encore enclavées.
Oui, et selon vous, et quelles sont les conséquences que peuvent engendrer ces pratiques?
Les conséquences sont lourdes. En tout cas, d'abord, regardons sur le plan social. C'est une tragédie quand on regarde la vie d'un esclave. J'ai mené à deux reprises deux séjours de terrain dans ce que Tomadri a intitulé « Le triangle de la honte ». Mais c'est une tragédie quand on regarde la vie de ces victimes. Parce qu'il y en a, et quand vous les écoutez parler, c'est tragique. Quand vous voyez dans quelles conditions elles vivent, leurs enfants vivent, c'est tragique. Donc sur le plan social, il y a une situation tragique qui est là. Sur le plan économique, il faut l'ajouter. Mais est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté quand vous avez pratiquement dans certaines zones, 80 à 90% de la population qui n'a pas du tout accès à la terre, qui n'a pas du tout accès aux privilèges de la nation, l'éducation, l'éducation civique, l'éducation scolaire, etc., etc.
Merci à vous, M. Aliou Daouda, vous êtes magistrat. Qu'est-ce que les lois nigériennes prévoient comme sanction pour les auteurs de...
Non, la loi, les juridictions appliquent les textes de loi prévus pour la répression de l'infraction de l'esclavage, soit en tant qu'infraction délictuelle ou en tant que crime.
Oui.
Ou maintenant la traite simple ou la traite aggravée, qui, de deux côtés, comme l'a dit le secrétaire général de Timidria tout à l'heure, il y a une loi qui a été adoptée depuis le 2003 qui a érigé en infraction pénale l'esclavage sous le fondement de la convention de 1926 révisée en 1956. Elle a prévu une infraction d'ordre délictuel, donc un délit, mais aussi il y a un crime. L'esclavage donc a deux formes, est réprimé sous deux formes, soit c'est délictuel, soit c'est criminel.
Oui.
Les infractions criminelles, ce sont les peines de 3 ans et l'autre jusqu'à 10 ans ou plus.
Mmh.
Maintenant, s'agissant de l'ordonnance sur la traite, elle aussi, il y a la traite simple et il y a la traite aggravée.
Mmh.
La traite aggravée, c'est lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou porte sur plusieurs personnes, ou maintenant commise par une personne qui a utilisé son statut.
Mmh.
Puisque vous savez, la traite, il y a aussi ce qu'on appelle abus d'autorité ou de situation de vulnérabilité. La plus grave conséquence, c'est la violation des droits humains. C'est-à-dire l'individu est dénié de tout droit fondamental.
Mm-hmm.
Si vous voulez, vous voyez le code civil nigérien. Il dit que le corps humain est incessible. La personne humaine est sacrée, en dehors même des textes auxquels le Niger appartenait.
Mm-hmm.
Ces deux textes permettent, autorisent, à protéger l'esclave,
l'esclave
et sa descendance.
Voilà. Monsieur Ali Bouzou, malgré l'arsenal juridique et la volonté politique, si on peut le dire, pour lutter contre l'esclavage, les pratiques sont toujours présentes. Où se situe le problème, selon vous?
Oui, le problème. Ah bon, avant d'arriver au problème, je voudrais d'abord un peu, avec ta permission, revenir à la servitude pour dette là.
Mm-hmm.
Pour expliquer que les nouveaux phénomènes de la migration, que vous voyez surtout irrégulière, je parle du Niger, et plus de 90% de ces migrants-là, soit qui viennent au Niger ou bien qui partent à l'étranger, sont victimes de ça. Parce que s'il y a des individus qui sont là, qui leur donnent de l'argent pour aller chercher de l'argent. Maintenant, dans tous les processus, s'ils quittent, ils arrivent par exemple à Agdez, donc là-bas même, c'est de l'argent qu'on envoie pour qu'ils aient là où s'installer.
Oui, oui.
On paye aussi voilà, les transports, on paye les guides, on paye la nourriture. Maintenant, arrivé, je ne sais pas, à Libye ou en Algérie, aussi au centre d'Aké, là, il y a des gens qui viennent aussi pour les installer, les chercher du travail. Mmh. Ça veut dire, toi qui pars, en tant que migrant, en réalité, tu travailles pour eux, tu ne travailles pas pour toi.
Mm-hmm.
Pour réaliser quelque chose sur toi, il faut banalement passer 10 ans en train de chercher du travail. Parce que tout ce que tu gagnes,
c'est payé.
C'est payé.
Ouais.
Et même si tu veux donner quelque chose à tes parents, tu vas dire, allez-y chez un tel, ou bien allez-y chez l'autre, il va vous donner. Donc toi, tu envoies.
Mm-hmm.
Donc voilà. Même les problèmes que les gens, aussi au Niger, qu'on a créé dans le cadre de la migration, dit Kanché, le vrai problème, c'est ça.
Mm-hmm.
À Kanché, il y a des gens qui sont là, c'est eux qui financent.
Le départ.
C'est eux qui financent le départ, c'est eux qui financent
tout.
Et qui collectent tout.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont là. Et malheureusement, même l'ordonnance, là, en fait, personne n'a pris ça, n'a essayé de prendre ça en charge. Mm-hmm. Le vrai problème est là.
Oui, donc votre association est là pour militer, vraiment pour mettre fin à ces pratiques. Quelles sont les actions que vous menez pour cela?
On a fait beaucoup de plaidoyers pour amener l'État à appliquer les textes. C'est-à-dire qu'il faut condamner. Seulement, l'État peut-être voit que, comme tout à l'heure je vous ai dit, il y a une emprise totale des autorités administratives, des autorités coutumières sur les autorités administratives. Et vous savez qu'en matière... Moi, je vais droit au but. En matière d'élection, les autorités, les politiques ont besoin de ces autorités locales.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez, de tout, ils ne veulent pas créer des problèmes entre eux. Mais c'est qu'il est important, quand même, il est important, puisqu'il y a eu une volonté politique, je crois, en 2011, deux fois exprimée par le président de la République. En juin 2019, là, le premier ministre a parrainé notre sixième édition du journée de plaidoyer pour l'institutionnalisation de la journée nationale de lutte contre l'esclavage. Mm-hmm. Nous pensons que ça va, en tout cas, juin prochain, nous aurons notre journée.
D'accord.
Mais je pense que tant qu'on n'applique pas les textes, il y aura toujours un problème.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, nous, on ne peut pas comprendre. On a des dossiers qui sont à la cour de la CEDEAO. Mais la justice de la CEDEAO, quand elle va venir, elle va utiliser nos propres textes pour faire le jugement.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez, ça, c'est une honte qu'une justice de la CEDEAO vienne ici au Niger
mm-hmm.
pour prendre nos textes et nous faire le jugement.
Mm-hmm. Pour revenir un peu sur les cas de pratiques esclavagistes, parlez-nous, donnez-nous quelques exemples de cas dans lesquels votre association a intervenu.
Que je vais vous parler... d'une affaire qui est aussi à la justice de la CEDEAO, Madame Fodi, elle a été donnée en cadeau de mariage. C'est-à-dire, il y a la fille du chef qui s'est mariée et elle est partie comme cadeau à la fille du chef, là. Ils l'ont amenée dans le territoire burkinabé. Bon, aujourd'hui, elle a à peu près 9 enfants. 9 enfants. Donc, il y a des moments où les premiers enfants, les pères est connu, mais d'autres, on peut dire que c'est des géniteurs même qu'on amène pour avoir des enfants.
Des
et ça,
enfants.
C'est une stratégie des esclavagistes.
Okay.
Ils ont besoin des enfants pour les mettre dans des activités domestiques. Donc là où je vous parle, dans Niamey, il y a des enfants. Il y a quand même la fille de Fodi avec le maître ici à Niamey.
Mm.
Avec le maître. Elle n'a pas pu récupérer tous ses enfants. D'autres sont au Burkina derrière les animaux. Et la juridiction du Niger a des problèmes même à programmer les jugements. Il y a aussi l'affaire qui de Denki, le village qui est là, à 20 km de Niamey. C'est un village administratif. C'est le troisième chef qui est là. Il est reconnu en 2007. Il y a une décision du préfet de Kolo 2007. Mais en 2009, un individu s'élève pour dire que les ancêtres des gens de Denki étaient les esclaves de son papa.
Mmh.
Et par conséquent... Dans la coutume germa, on dit l'esclave n'a pas droit à la terre.
Mm-hmm.
Donc il faut les déguerpir. C'est 247 chefs de famille. Il faut des chefs de famille. Avec décision, le chef a une décision. C'est parti à la justice partout jusqu'à là.
Jusque-là.
La justice même a ordonné leur déguerpissement. Donc vous voyez, tout récemment, on a effectué une mission conjointe avec le ministère de la Justice à travers. La Direction des droits de l'homme et la Commission nationale des droits humains. On est parti dans le cadre d'identification des victimes de l'esclavage dans quelques zones de la région de Tawa et Agrez.
Mmh. Rapidement, nous sommes presque à la fin de cette émission.
Ils étaient dépassés de voir des choses.
Mmh.
Moi, le juge qui nous a accompagnés dit que Ali, Wallah, Massala, si je n'ai pas vu ça de mes propres yeux, je n'allais même pas croire.
Mmh. Alors, monsieur Ali, quel est votre mot de fin, comme nous sommes vraiment à la fin de cette émission?
Bon, moi, mon mot de fin... C'est que, franchement, que l'État s'engage véritablement à lutter contre l'esclavage.
Mm-hmm.
Que les lois et tout ce qui sont relatifs à l'esclavage doivent être appliquées.
Mm-hmm.
Ça, c'est un. Maintenant, trouver des moyens pour sortir ces gens-là de la pauvreté. On peut créer... des fonds d'indemnisation des victimes de l'esclavage.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des partenaires pour alimenter ces fonds-là, des partenaires extérieurs. Même ici, même avec les téléphonies et autres, là, on peut collecter des fonds
mm-hmm.
pour quand même ravitailler ces fonds-là.
Merci à vous. Alors, docteur Moussa Zangaou, rapidement pour finir, avez-vous l'espoir de voir un Niger sans aucune pratique d'esclavage moderne?
Et tant que l'esprit... de certaines autorités coutumières et observées comme une force supérieure à la loi, tant que les intellectuels, certains intellectuels nigériens qui sont issus de ces mêmes milieux d'obédience conservatrice, esclavagiste, eh bien, il est difficile d'aboutir à des résultats concluants.
Mmh.
Mais une lueur d'espoir. Parce que de plus en plus, vous avez des jeunes qui sont issus des milieux d'origine servile, qui ont commencé à s'organiser et qui ont commencé à porter le flambeau de cette lutte de la libération de leur milieu. Ça, je crois que si les autorités nationales ne prennent pas des précautions pour cadrer cet éveil, ça risquerait malheureusement de produire des effets contraires à la démocratie, au développement de notre pays.
D'accord.
C'est extrêmement important. Surtout, notre espace aujourd'hui est un espace fragilisé qui est traversé par des acteurs marchands d'illusions qui recrutent un peu partout pour mettre en difficulté la paix et le développement dans nos pays.
Merci. Merci à vous. Et donc, je finis avec vous, monsieur le magistrat Aliyo Daouda. Votre mot de fin.
Bon, enfin, moi, je pense que, comme l'a dit Zangaou, l'heure d'espoir est là. Et comme l'a dit monsieur le secrétaire général de Timidria, l'espoir est là. Il faut continuer les sensibilisations, la sensibilisation, les formations. Les différents plaidoyers que Timidria et autres font participent à l'éveil de conscience. Parce qu'à l'époque, le sujet-là était tabou. Hein. Maintenant qu'on est arrivé que l'État a admis l'existence de pratiques, a pris des textes de loi, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. Mais dans tous les cas, le combat, comme l'a dit Ali, ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas d'abord de véritables réformes structurelles. Il faut d'abord aller à la structuration même de nos sociétés pour voir, comme l'a dit Zango tout à l'heure, d'abord former les gens. Les zones dépourvues qui sont où se pratique la vie, il faut que l'État soit présent, que le système de l'État soit présent, l'école, la santé, l'éducation, mais aussi à l'aspect économique. Il faut aussi faire en sorte d'autonomiser les personnes qui sont victimes de ces pratiques. Même si on le fait, il faut agir non seulement sur la tête des gens, il faut agir sur la structure sociale, il faut agir sur le poids économique, mais il faut agir sur les toutes forces politiques, sociales et culturelles.
Merci à vous, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Nous sommes donc au terme de cette émission. Comme vous venez de l'entendre, de par les interventions de nos différents invités, les pratiques esclavagistes modernes sont toujours présentes ici au Niger. Il faut donc que l'État s'engage à vraiment lutter contre ce phénomène et que les lois prévues pour cela soient appliquées. Pour les associations qui militent pour mettre fin à ces pratiques, elles doivent intensifier de leur action, telles que les sensibilisations. Et donc, c'est ici que se referme cette émission. Nous étions avec Ali Bouzou. Il est le secrétaire général de l'association de lutte contre l'esclavage au Niger, Timidria. Merci à vous.
Merci.
Docteur Moussa Zangaou, il est sociologue. Merci d'être venu. Monsieur Aliyo Daouda, il est magistrat. Merci également à vous. À la présentation, c'était Nafissa Adam Sirfo. À la technique, Issa Lawali. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangou.